Esprit de justice qui va s'intéresser ce soir au président de correctionnel. Qu'est-ce que c'est qu'un bon président de correctionnel? Et il va vous faire rentrer dans l'atelier du juge. L'immense majorité des affaires pénales sont traitées en audience correctionnelle. Il y en a plusieurs sortes. Elles peuvent être à juge unique ou en collégial, c'est-à-dire qu'il y a trois juges. Elle peut durer une heure, comme la plupart des affaires de comparution immédiate, ce qu'on appelait avant les flagrants délits, ou elle peut durer plusieurs jours, voire plusieurs semaines. La qualité des échanges dépend en grande partie de la personnalité du président ou de la présidente. D'où l'importance de se pencher sur son éthique. Qu'est-ce que c'est qu'un bon président de correctionnel? C'est bien entendu quelqu'un qui connaît bien ses dossiers, qui les a lus, qui les a travaillés avant l'audience. C'est ensuite quelqu'un qui manifeste par son comportement même, jusque dans les gestes les plus infimes, les valeurs de la justice, c'est-à-dire l'écoute, l'impartialité, l'humanité. L'audience doit s'assurer que les faits sont établis. Et donc il faut revenir sur l'enquête. Et aussi permettre à l'avocat et au procureur de développer leurs arguments. Mais elle n'est pas qu'une affaire entre professionnels. Le président doit également s'inquiéter du prévenu, si vous voulez, de la personne qui est dans le box. Elle n'est pas toujours dans le box, parfois il est libre, mais il est quand même prévenu. Et quand on est prévenu, la plupart du temps, on est stressé. Le prévenu n'a pas les codes à l'audience, et notamment lorsqu'il est étranger. Et donc le président doit expliquer oralement sa décision dans un langage simple et s'assurer que le prévenu comprend. Bref, il y a beaucoup de questions et pour discuter de cette éthique du président de correctionnel, il était indispensable d'inviter l'un d'entre eux, mais aussi d'avoir l'autre point de vue, le point de vue de l'avocat, celui ou celle qui est de l'autre côté de la barre. Et c'est pour ça qu'Esprit de justice a réuni ce soir Guillaume Daïef, qui est magistrat, qui préside la 13e chambre du tribunal judiciaire de Paris et qui est l'auteur d'un article important pour moi, intitulé « Libre propos sur l'audience correctionnelle » qui a été publié dans les cahiers de la justice en 2024. Et pour lui apporter la contradiction, la critique, Marie Dosé. Marie Dosé est avocate au barreau de Paris et l'autrice de nombreux ouvrages déjà sur la justice, parmi lesquels on peut citer « Deux générations, un barreau », »,« Dialogue d'avocats sur un paysage judiciaire » avec le regretté Daniel Soulez-Larivière, c'était Dalloz, chez Dalloz en 2023. Éloge de la prescription, là aussi, c'est un point de vue qui n'est pas majoritaire. Les victoires de Daesh quand nos peurs fabriquent du terrorisme, chez Plomb en 2020. Et puis, plus proche du sujet de ce soir, cour d'assises, quand un avocat et un juré délibèrent, c'est coécrit avec Pierre-Marie Abadi.
France Culture, Esprit de justice, Antoine Garapon.
Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Et merci d'avoir répondu à mon invitation. Alors, Guillaume Daïef, c'est vous le président de correctionnel, en l'occurrence. Et il y a plusieurs types d'audiences. Vous y pratiquez toutes, vous?
Alors, d'abord, merci de cet échange, surtout de cet échange avec une avocate, Mendozé. C'est très rare que... C'est trop rare qu'en France, les magistrats et les avocats échangent.
Bah, vous vous rendez compte, vous retrouvez tous les jours à l'audience.
Et oui, mais dans le cadre d'un rituel, d'un protocole, et pas dans le cadre d'une réflexion partagée.
Marie Dosé, je vous... C'est vrai que vous
Oui, on ne se parle pas assez. Non, on ne se parle pas assez. On échange dans le cadre strict d'une audience qui a ses codes, mais on ne se parle pas assez, avant et après.
Et bien justement, voilà, Esprit de justice va vous donner l'occasion de dialoguer. Je vous ai interrompu, Guillaume.
Bravo, d'ailleurs. Esprit de justice, donc. Alors, sur l'audience pénale, évidemment, il y a plein d'audiences pénales, hein, ça, on peut les décliner. Mais moi, ce que je voudrais juste dire, c'est quel est le point commun, en fait, de toutes ces audiences pénales et qu'est-ce que c'est qu'une audience? Alors, moi, je vous propose cette définition, qui est assez simple, qui est qu'une audience, c'est un moment où, de manière publique, on débat de la culpabilité ou de l'innocence d'un prévenu, et un moment aussi où, si on considère qu'il est coupable, on va débattre de la peine. Voilà.
Donc deux objectifs principaux, innocence ou culpabilité, ensuite la peine. Vous êtes d'accord avec ces définitions, Marie Dauzet ?
Oui, dans l'absolu, bien sûr. Moi, c'est vrai que comme avocat, soit de partie civile, soit de prévenu, l'audience, c'est enfin l'instant où celui que je défends ou celle que je défends va rencontrer son juge. C'est-à-dire que cette histoire judiciaire, elle va s'arrêter là, très probablement, sauf si bien sûr il y a un appel. Mais en tout cas, c'est vraiment l'instant attendu depuis des mois, parfois des années. Donc c'est l'instant crucial.
Est-ce que parfois vos clients ne sont pas frustrés de ce moment ?
Ils le sont toujours, mais parce que dans une audience, ils imaginent beaucoup trop de choses. Alors c'est à nous, les avocats, bien sûr, c'est à nous, les avocats, de leur expliquer le périmètre de ce qui peut être dit, de ce qui peut être fait, de ce qui peut ressortir d'une audience pénale. Mais évidemment qu'ils arrivent avec un bagage qui dépasse parfois l'entendement et avec un bagage qui est chargé de beaucoup de choses qui n'ont rien à voir avec la sphère judiciaire.
Et vous, Guillaume Naïef, quand vous rentrez à l'audience, quand vous donnez le coup de sonnette pour rentrer dans la salle d'audience, à quoi vous pensez ? Quel est votre objectif ?
Ben, l'objectif, c'est un objectif à la fois simple et très, très, très compliqué. C'est de rendre une bonne justice, en tout cas que le prévenu et les parties civiles, c'est-à-dire les victimes, aient l'impression que justice a été rendue. Voilà. Alors, et ça, on y reviendra durant l'émission, mais ça repose surtout sur la manière de faire. Mais ce que je voudrais juste dire aussi en préliminaire, c'est que l'audience pénale, pour moi, c'est le métier le plus difficile que j'ai exercé.
Voilà. Vous avez exercé quelle fonction avant ?
Donc, auparavant, j'ai été juge d'instruction d'abord. Et puis ensuite, j'ai été procureur. Et puis, j'ai également exercé des fonctions en dehors de la magistrature. Voilà. Alors, la différence avec le juge...
Vous avez été avocat, si c'est pas...
Alors, j'ai été, pas statutairement avocat, mais j'ai déjà plaidé 3-4 fois dans un lieu particulier, enfin, à la fois au Conseil d'État et au tribunal de commerce, en tout cas au tribunal de commerce, dans la procédure orale, dans mes anciennes fonctions c'est de ça. Sous-directeur à la DGCCRF. Et c'était très intéressant.
Et donc, pour vous, l'audience correctionnelle, c'est ce qu'il y a de plus dur ?
Alors, c'est ce qu'il y a de plus dur, parce que, si vous voulez, juge d'instruction... Finalement, c'est pas très compliqué, parce que le juge d'instruction, lui, son seul objectif, c'est de rassembler des preuves, hein, et puis de les examiner. Et d'ailleurs, en anglais, souvent, juge d'instruction dit « examining magistrate ». Les examiner, et puis de décider s'il existe ou pas des charges suffisantes pour que la personne mérite d'être jugée devant une juridiction, que ce soit la cour d'assises ou...
L'objectif est clair.
L'objectif est clair, et surtout, il ne pose pas la question de la peine. Un juge d'instruction, il ne se pose pas la question de la peine, on ne lui demande pas ce qu'il pense de la peine. Dans son ordonnance de renvoi, c'est-à-dire ce qui saisit le tribunal, il ne donne aucun avis sur la gravité de la chose, etc. Il ne pense qu'aux indices et aux preuves. Alors que le président correctionnel ou le juge ou le président de cour d'assises, les juges d'assises, ils vont devoir évidemment décider si la personne est coupable ou pas, mais s'ils décident qu'elle est coupable, ils vont devoir décider de la peine. Et alors ça, c'est vertigineux. Voilà, c'est vertigineux parce que dans notre système, les peines, la loi fixe que des plafonds, hein, ne fixe pas de... Alors, je suis absolument pas pour les peines planchers. Mais enfin, il faut, oui. Voilà,
ça fixe. Ça peut varier beaucoup quand même.
Et donc, par exemple, quelqu'un qui est poursuivi, je sais pas, pour escroquerie en mode organisé à 10 ans, eh ben, vous pouvez lui mettre entre 2 mois de prison et 10 ans de prison. Vous vous rendez compte, entre 2 mois et 10 ans. Et je parle pas des peines d'amende, et je parle pas des peines complémentaires. Vous pouvez pas l'interdire de gérer, etc. C'est absolument.
Mais vous avez une petite jurisprudence personnelle. Vous savez en gros comment. Vous êtes depuis combien de temps président de cette chambre financière ?
Moi, pas très longtemps. Ça fait 2 ans et demi. Mais la jurisprudence, si vous voulez, en fait, chaque cas est différent en réalité. Oui, c'est compliqué de parler. En termes de, pour la peine, par les jurisprudences,
ça. Alors, on va parler de la peine, mais avant, je me tourne vers Marie Dauzet. Vous voyez, vous, et c'est la différence avec notre présidente correctionnelle, vous voyez beaucoup de présidentes correctionnelles. Vous en voyez à Paris, dans une province, vous voyez en président de cour d'assises. Qu'est-ce que vous constatez ?
Mais ce qu'on constate, nous, lorsqu'on rentre dans une audience, c'est que le juge fait l'audience, le président fait l'audience, et que... Je réfléchissais à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est quoi un bon président ? Je pense que moi, un bon président, c'est quelqu'un qui n'a pas peur. C'est quelqu'un qui s'autorise à être surpris. C'est quelqu'un qui ne veut pas nécessairement maîtriser exactement ce qui va se passer. Et moi, je ressens parfois certains de vos collègues hein, avoir peur du prévenu, avoir peur du débordement, avoir peur d'un trop-plein d'émotions, de ne pas pouvoir gérer ce qui va se passer, et essayer donc de maîtriser l'audience, quitte à enfermer les uns et les autres dans un registre émotionnel qui sera pas le leur, quoi. Et ça, c'est dommage. Même parfois, à presser. Les questions font peur. Moi, je me rends compte de ça de plus en plus. C'est-à-dire qu'en plus, avec l'âge, on est plus habitué à poser des questions. Puis moi, je ne veux pas avoir peur de mon client. C'est-à-dire que je pose aussi les questions qui fâchent. Et parfois, des questions bien plus dures que celles du procureur. Parce que j'ai envie qu'on aille jusqu'au bout, parce que je sais que c'est ce rendez-vous, et qu'il n'y en aura qu'un, et que donc il est important qu'on aille jusqu'au bout de la quête de la manifestation de la vérité. Et je vois des présidents redouter. Redouter finalement que ça aille trop loin. Et ça, pour moi, c'est pas un bon président. Mais voilà, je sais aussi, et j'ai rencontré de merveilleux présidents, avec qui savaient très bien fabriquer des ponts. Parce que c'est ça aussi.
Fabriquer des ponts.
Oui, fabriquer des ponts entre le box et le banc des parties civiles, des ponts entre lui-même et le prévenu, ou en tout cas le prévenu sans pour autant se sentir très à l'aise. Il faut de la solennité, c'est très important. Mais en tout cas se disent « je vais être entendu ». Je peux être entendu. Et ça, c'est extrêmement important.
Vous avez peur, Guillaume Daïef, quand vous rentrez à l'audience. Est-ce que vous ressentez ce désir de tout contrôler pour que l'audience ne chavire pas dans des émotions intenses, dans de l'agressivité, dans des pleurs, dans des peurs?
Non, moi, je crois au contraire qu'il faut laisser à l'audience la chance de tourner un peu...
De faire événement.
De lâcher les émotions. Non, ça, je pense que c'est important. Par exemple, moi, il m'arrive quand deux parties parlent en même temps. Là, il y a deux réactions. Normalement, l'audience, la parole est distribuée, n'est-ce pas ? Et le président organise la répartition de la parole. Et donc, ça ne devrait pas arriver. Mais en fait, ça arrive. Et moi, ce que je fais en général, c'est que je relâche les rênes. Pendant 10 secondes, 15 secondes, 20 secondes, un peu de cacophonie, hein, voilà. Et après, je les reprends, les rênes, voilà. Et je pense
parce que vous pensez que c'est bon que les émotions se purgent, on pourrait dire, par l'agressivité.
C'est un lieu où il y a quand même de l'émotion, et en plus parce que de manière objective et justifiée. Et je pense que ça fait aussi la beauté de l'audience. Ça peut être aussi ces surprises-là. Et dans la question de la peur, enfin, il y a un autre sujet. C'est donc le président pose des questions, hein, parce que dans notre système, effectivement, le président c'est pas comme un système anglo-saxon.
Ça, il organise les débats, quand même.
Oui, mais alors, le juge anglo-saxon et le juge français, quelque part, il organise les débats. Mais la différence entre les deux, c'est que le juge anglo-saxon, lui, il pose pas de questions. Enfin, d'après ce que j'ai compris,
tout à fait.
Il pose pas trop de questions.
Aucune question.
Je me demande même s'il lit le dossier avant d'aller à...
Pas nécessairement, ouais. Parce que il a un rôle de facilitateur, d'organisateur, ouais. qui repose in fine sur la structure du procès.
Et donc, ça, c'est une grosse différence avec notre système où le président en France pose des questions, et poser des questions, c'est poser des questions sur les éléments à charge. Alors, c'est poser des questions aux prévenus, hein, pour savoir ce qu'il dit de « mais machin dit que vous avez reçu de l'argent sur votre compte bancaire, votre téléphone borné là, etc. » C'est sur les éléments à charge.
Est-ce que ça veut dire que vous prenez pour un super juge d'instruction pendant un moment de l'audience, qui veut arriver quand même à prouver, à faire tenir son dossier?
Non, moi je cherche à rien faire tenir du tout, rien du tout. Je cherche à mettre sur la table tout ce qu'il y a dans le dossier. C'est un dossier, il a des tripes, il faut les sortir sur la table. Voilà. Et je le dis tout de suite, il m'arrive parfois de poser des questions au procureur. Alors là, oui. Là, ça surprend un peu, parce que c'est sûr que ce n'est pas une pratique très habituelle. Mais parfois, de dire au procureur, mais vous faites partir les faits à compter de janvier 2020. Mais moi, avant, jusqu'à juillet 2020, moi, je n'ai rien vu du tout. Où est-ce que c'est au dossier? Voilà. Et alors là, j'essaie de me mettre en position de juge, c'est-à-dire entre une accusation et la défense. Et donc, je ne m'interdis pas de poser des questions également au procureur qui me mettent finalement un petit peu en difficulté. Oui. Voilà, mais donc je termine. Quand je pose des questions, poser des questions à un prévenu, donc déjà c'est s'exposer à l'impression Enfin, peut-être éventuellement donner l'impression qu'on est partial, à charge, alors qu'en fait, moi, je suis loyal. Mmh. C'est-à-dire que je sors du dossier tout ce qu'il y a dedans et je demande à la personne de s'expliquer. Mais le point important, c'est d'écouter les réponses.
Oui. Voilà. Voilà. Il y a des présidents qui n'écoutent pas les réponses.
Peut-être bien.
Oui, il y a même des présidents qui les font, les réponses. Certains. Non, mais c'est vrai que c'est très, très rare un président qui interroge le parquet. Et qui peut aussi interroger, d'ailleurs, l'avocat de la défense sur certains éléments qui ont pu être mis en lumière dans le cadre d'une instruction, par exemple. C'est très rare, très, très rare. Mais c'est vrai que certains présidents interrogent le prévenu comme s'il devait être interrogé, mais n'attend pas grand-chose de ces réponses. Je songeais en vous écoutant, hein, aux audiences de comparution immédiate, parce qu'il faut quand même y revenir. Oui, oui. C'est une justice d'abattage. Vous disiez tout à l'heure, une heure par dossier. Non, c'est 20 minutes par dossier. Et en 20 minutes, évidemment...
Je me suis renseigné avant pour l'émission, et des collègues m'ont dit, non, 20 minutes, c'est plutôt plus proche d'une heure.
Ah là là, ouais. Alors à Paris, c'est vraiment pas proche d'une heure. Hein. Moi, je suis persuadée que ça l'est pas. Hein. Peut-être qu'on compte le délibéré dans l'heure, mais enfin,
c'est trop rapide. C'est trop rapide.
Non, mais de toute façon, c'est indigne. Voilà.
C'est indigne.
Mais c'est parce que l'audience ne peut pas être pensée, parce que je ne sais même pas comment les magistrats supportent d'instruire à un tel rythme et avec autant de rapidité, et parce qu'on passe à côté du justiciable qui passe à côté de son audience. Combien de fois j'ai défendu quelqu'un en comparaison immédiate, qui à la fin me demandait ce qu'il s'était passé, parce qu'il n'avait tout est allé tellement vite qu'il n'a strictement rien compris à ce qu'il se passait.
Ça vous arrive, Guillaume Naïef, de présider des audiences de comparution immédiate des anciens flagrants délits?
Alors assez peu, parce qu'à Paris, la juridiction est assez grande pour que on n'ait pas à faire ce genre d'exercice, qui est effectivement pas de la bonne justice, mais le fait est que c'est la justice des petites gens, hein, la justice des faibles, des descendants,
des dominés,
disait l'autre, des dominés, et que donc je dirais que globalement quand je dis on, c'est peut-être les pouvoirs publics et les gens qui sont dans les ministères,
les décideurs de justice,
qui s'en accommodent.
Vous avez une chambre financière où il y a des dossiers qui sont plus importants, plus compliqués et qui concernent une autre catégorie de personnes, Guillaume Naïef.
Alors, à la 13e chambre, ça reste quand même, pour utiliser une catégorie peut-être un peu réductrice, c'est pas vraiment des cols blancs, parce que il y a beaucoup d'escrocs, d'escroqueries, et les escrocs se considèrent pas en général comme des cols blancs, ils se considèrent plutôt comme, ils savent qu'ils sont des voyous, si je puis dire. Mais en revanche, ce qu'on peut souligner aussi sur le thème de l'inégalité entre les petites gens et les gens importants, c'est la durée de l'audience.
Oui.
C'est-à-dire effectivement, en comparution immédiate, c'est du 35 minutes, 40 minutes par personne. Alors que, et moi, par exemple, quand on audience des affaires dans ma chambre, je dois, ça s'appelle les calibrer.
Oui.
Hein, c'est un terme technique. Pour dire à peu près combien de temps ça va durer, de combien de temps j'ai besoin.
Très décision très importante.
C'est important et c'est assez compliqué parce que ça dépend évidemment du nombre de prévenus, ça dépend s'ils parlent français ou pas, ça dépend si un peu parfois de leur des avocats qu'ils ont, etc. Enfin bref, de plein d'éléments. Et ma pratique, c'est en gros de considérer que par jour, si je puis dire, quand dans les gros dossiers, je peux faire, pardonnez-moi ce vilain terme, passer 3 à 5 personnes par jour. Mm-hmm. Ben, par exemple, dans les dossiers de financiers, par exemple, récemment, il y avait Monsieur Dussopt qui était relaxé, et ils étaient deux, ils ont eu 3 jours.
Oui.
Voilà,
c'est ça.
Ça a une grosse différence.
Alors, je voudrais reprendre une phrase du président correctionnel quand il dit « ils savent que ce sont des voyous, ils savent ce qu'ils ont fait, Marie Dosé ».
Oui, mais que voulez-vous? Non, j'ai toujours un petit peu de mal. Oui, bien sûr, mais
non, ça... je veux dire par là, c'est que qu'est-ce qu'ils attendent de la justice quand ils savent ce qu'ils ont fait?
Ah non, mais quand les faits sont reconnus, si on part
c'est
sur
ça.
Ce postulat-là, les faits sont reconnus. Très souvent, je ne sais pas si Monsieur le Président sera d'accord avec moi, en matière financière ou en matière d'escroquerie, je trouve qu'on ne va pas assez loin dans la personnalité. Et notamment, s'agissant des informations judiciaires, il y a très très peu d'expertise psychologique. psychologiques, d'enquêtes de personnalité poussées. Et c'est étrange, c'est un peu comme si, puisque c'est une infraction qui relève finalement d'une atteinte au bien, on n'a pas besoin de s'intéresser à l'auteur. C'est dommage. C'est dommage parce que moi, je sais à quel point, parfois, toute une vie, un parcours de vie, une histoire familiale peut amener les uns et les autres à ce type de passage à l'acte. Et ça, c'est dommage.
Vous partagez ce regret, Guillaume Naïef ?
Oui, oui, tout à fait. Et pas plus tard qu'il y a quelques jours, on a eu à l'audience une personne qui, en fait, prenait en location des appartements dans Paris avec, en produisant au bailleur, c'est-à-dire à ses futures victimes, des comptes sociaux d'une magnifique société qui était complètement bidon, mais qu'il avait quand même réussi, pour lesquels il avait quand même réussi à obtenir une notation à la Banque de France, et une bonne notation. L'expert financier de la Banque de France n'y avait vu que du feu, lui non plus. Donc, il louait, et puis en même temps, il payait aucun loyer, évidemment, et en même temps, il sous-louait sur Airbnb. Donc, il s'est fait pas mal d'argent. Eh bien, ce prévenu en était à sa 20e condamnation pour escroquerie. Et dans l'information judiciaire, 20e, on écoute. Et dans l'information judiciaire, il n'y avait pas d'expertise psychiatrique ou psychologique.
C'est ça.
Pourtant, le type paraissait... Mais juste pour finir, pour répondre à Maître Dosé, son avocat, lors de l'information, n'avait pas demandé d'expertise.
Ça, il faut le demander systématiquement. Je suis d'accord avec vous.
Culture, Esprit de justice, Antoine Garapon.
Esprit de justice qui continue à se demander qu'est-ce que c'est qu'un bon président de correctionnel, en compagnie de Marie Dosé, avocate, et de Guillaume Naïef, qui préside une chambre correctionnelle, la 13e, et qui a choisi de nous faire entendre cette partita numéro 1 en si bémol majeur, avec dans une version un petit peu particulière, celle de Jacques Loussier, Guillaume Naïef.
Oui, oui, j'ai proposé ça parce que ce côté enjoué et léger me plaît et puis est bon à écouter en ce moment. Et puis par ailleurs, il y a ce mélange là de musique la plus classique, la plus belle, Québec, et puis de jazz. Et ce mélange, ce métissage me plaît bien dans un monde où certains voudraient revenir à l'identité nationale. Oui. Hein, et ce genre de choses, le métissage, j'aime bien.
Mais je croyais que vous alliez me dire, eh ben, c'est comme une audience, ça commence très 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 carré, très organisé, puis après ça swing. Guillaume Naïef, dans quel état d'esprit on aborde un dossier, une audience? Vous dites c'est ce qu'il y a de plus difficile, parce qu'il faut faire deux choses en même temps, il faut établir des faits et il faut condamner, il faut prendre une décision. Quel est
relaxer,
votre état d'esprit?
Ou relaxer. L'état d'esprit, l'état d'esprit... Effectivement, dans l'article là, que vous avez cité en début d'émission, je parle de bienveillance. Voilà.
C'est paradoxal pour un président de correctionnel.
Et oui. Alors bienveillance, alors que c'est celui qui punit. Bon, compliqué. Mais et alors, j'ose même une comparaison avec une figure, une parabole biblique, qui est celle de la parabole du fils prodigue, hein, qui, comme on le sait, revient après avoir fait n'importe quoi dans le monde, donc on va dire avoir commis des infractions, n'est-ce pas, revient chez son père, et puis là il y a son frère aussi, son frère et son père l'accueillent, peut-être un peu triste, mais enfin heureux aussi qu'il revienne, alors que son frère, lui, le rejette, voilà. Bon, j'ai osé cette petite comparaison.
Ça veut dire que pour vous, être jugé, c'est revenir dans le monde?
Eh bien, oui, il peut y avoir de ça. Il peut y avoir de ça. Effectivement, ça peut être ça.
Qu'est-ce que vous en pensez, José?
Évidemment, parce que c'est aussi se sentir autorisé à revenir dans la communauté des hommes, dirait Henri Leclerc.
C'est ça, exactement, je pensais.
Voilà, ouais, vraiment. Et je me dis, mais moi, vous disiez, c'est paradoxal, la bienveillance de la part d'un président d'un tribunal correctionnel, mais pas du tout. On peut être d'ailleurs un président de tribunal correctionnel très ferme, mais rester dans la bienveillance, j'en suis persuadée. Et moi, je pense qu'il est tellement important pour les prévenus de sentir qu'ils peuvent être entendus, écoutés, compris peut-être. Mais vraiment, je peux vous assurer que faire œuvre de justice, c'est d'abord faire en sorte que celui qui reçoit la décision, même s'il n'est pas d'accord avec elle, la comprennent quelque part.
Qu'il ait le sentiment qu'il a été vraiment jugé.
Voilà, qu'il ait été vraiment jugé. Mais ça n'empêche pas peut-être un appel interjeté. Il peut considérer qu'il n'est pas d'accord avec cette décision, mais qu'au moins on s'est donné la peine d'essayer de le comprendre et qu'on l'a entendu, même si finalement on n'est pas d'accord avec ce qu'il assène ou ce qu'il a essayé de dire pour convaincre. Il peut ne pas avoir convaincu, mais s'être senti entendu. Et ça, c'est très important.
Vous dites quelque chose, Guillaume Daïef, dans votre article, et qui a évoqué pour moi non seulement des souvenirs, mais aussi des souvenirs de cinéphiles. Vous dites, c'est important pour vous de les regarder dans les yeux.
Oui, c'est essentiel. C'est essentiel. Moi, je vois, ou même moi, je vois que je n'accueille pas le prévenu là, quand il arrive à la barre. Et donc il faut que je le fasse. Alors, comment le faire? En le regardant dans les yeux, effectivement. Bon, là, par le regard, il y a quelque chose d'humain qui s'échange. Regardant dans les yeux. Mais alors, il y a plusieurs manières de regarder les gens dans les yeux. Il ne faut pas le regarder comme quelqu'un qui veut les gros yeux ou scruter comme ça, là, méchamment. Non, il faut le regarder avec une certaine bienveillance. Alors là, on pourrait me dire, oui, mais bon, ça, c'est ton caractère, tu vois, mais il pourrait y avoir d'autres manières, etc. Alors là, je sais pas. Moi, je pense quand même que ça devrait être une qualité, parce que c'est quand même un état d'esprit qui devrait quand même pas être une obligation, quand même peut-être bien jusque-là.
Moi, j'ai deux remarques. Le nombre de présidents qui, pendant que le prévenu s'explique, regardent leur dossier, fouillent dans leur dossier. Enfin, d'abord, symboliquement, c'est il me ramène à mon dossier. J'ai beau lui expliquer ce que je veux, il cherche dans mon dossier ce qu'il ne veut pas entendre de moi. Et puis là, je quitte un peu le correctionnel, mais je vais aux assises. Combien d'accusés ai-je entendu me dire « ils ont peur de moi, ils ne me regardent pas ».
Toujours la peur.
Ouais, parce que les jurés, effectivement, ont du mal à regarder dans le box, parfois. Et je peux vous assurer que l'accusé, lui, le sait, le sent et le constate.
Mais justement, je pensais à une jurisprudence américaine isolée, mais quand même très intéressante, qui disait, je crois que c'est la Cour suprême des États-Unis, qui dit quand un juge condamne à mort aux États-Unis, où la peine de mort existe, il doit regarder l'accusé dans les yeux.
Oui, alors ça, s'il faut le faire, je pense que jamais je condamnerai quelqu'un à mort.
Oui,
c'est juste impossible de regarder quelqu'un dans les yeux en lui disant tu es condamné à mort. Je pense que c'est juste impossible. C'est très intéressant. Très intéressant. Parce que quand on prononce la peine, c'est un moment où, on l'a dit. Et alors là, soit on l'a dit en regardant son ordi, parce qu'elle est notée sur l'ordinateur, là, ou sur la cote du dossier, soit on l'a dit en regardant la personne. Ouais. Et bien, c'est pas si évident que ça. Mais je pense que on devrait être capable de le faire.
Guillaume Daïef, une question un peu naïve, c'est difficile de condamner quelqu'un?
Ben alors, c'est plus ou moins difficile selon que, je veux dire, selon qu'on est du même monde ou pas.
C'est-à-dire?
Ouais. C'est-à-dire que si c'est quelqu'un qui est de votre milieu social, que vous pourriez avoir dans votre entourage, je pense que c'est plus compliqué que si c'est, je vais utiliser des catégories, moi qui habite Paris 17e, si vous voulez, voilà, un jeune des cités, voilà.
Parce que ça veut dire qu'il y a une distance.
Mais ce que je dis là, c'est grave, je veux dire, parce que ça renvoie à la question de l'impartialité, si vous voulez. Mais c'est sûr que Quand je parle de bienveillance, si vous voulez, la bienveillance aussi, on peut plus facilement l'exercer à l'égard des personnes qui nous ressemblent qu'à l'égard des personnes qui ne nous ressemblent pas. Alors ça, il faut lutter contre ça, évidemment.
Bien sûr. Et il faut en avoir conscience avant de lutter contre ça. Marie Dosé, ça vous rappelle aussi quelqu'un, ça.
Bien sûr, mais c'est un phénomène d'identification, de toute façon. Et comme il est beaucoup plus facile de s'identifier à la partie civile, à la victime, ou à la mère de famille, ou à celle ou celui qui a subi le mal, que de s'identifier à celui qui est dans le box, évidemment.
Mais est-ce que pas le rôle de l'avocat de permettre cette identification? Je pense à notre maître à tous, Henri Leclerc,
évidemment,
qui nous a appris ça.
Mais évidemment, Henri était extraordinaire pour cela. Henri parlait vrai. Et on avait envie de l'aimer lui, et donc on avait envie d'aimer celui ou celle qui défendait.
Et donc il mettait en valeur son humanité et permettait un vrai jugement, une
exactement.
Vraie justice.
Exactement. C'est le pont dont je parlais tout à l'heure. Mais lui, il réussit ça, c'est ça comme personne, c'est vrai.
Ce qui veut dire, Guillaume Daïef, qu'un bon président d'assises, c'est celui qui connaît son dossier, on pourra dire un mot si tous les juges ont vraiment maîtrisé leur dossier, mais ça veut dire aussi quelqu'un qui a fait un certain travail sur soi. Avant d'affronter l'autre, qui est celui qui est l'accusé, qui est le garçon, ou un étranger qui est dans le box.
Oui, ça, ce travail, il faut le faire en permanence. Je pense que, normalement, quand on vieillit, on connaît de plus en plus de gens, si vous voulez, on élargit son cercle, en principe, mais pas toujours. On peut s'enfermer aussi dans son milieu. Et donc, on devrait être plus à même de comprendre les gens qui défilent devant nous, ou les milieux dont ils sont issus.
Bien sûr. Marie Dosé, quand on est avocat, vous disiez, on voit beaucoup de présidents, on en voit des bons, espérons-le, on en voit des mauvais aussi, on en voit qui connaissent peut-être pas leur dossier. Ça arrive.
Oui, moi j'ai de plus en plus de mal avec les audiences à juge unique.
Oui.
Parce que j'ai vraiment le sentiment que les magistrats découvrent, pas tous évidemment, hein, mais que trop de magistrats en tout cas, découvrent le dossier à l'audience. Et vraiment, j'ai assisté à une lecture du dossier en direct. Et on comprenait que la présidente lisait les procès-verbaux parce qu'elle ne les avait jamais lus.
Et ça se comprend, ça s'entend à l'audience.
Oui, ça s'entend, et c'est catastrophique pour le prévenu. Et ça laisse une image détériorée, évidemment, de cet instant d'audience qui est pourtant crucial. Et alors qu'en collégial, ça arrive quand même beaucoup moins, d'abord parce que j'imagine que le président doit donner le change par rapport à ses propres collègues. Et c'est sérieux. Mais voilà, il arrive quand même à juge unique. Je trouve, moi, qu'à juge unique, les audiences ne sont pas souvent à la hauteur de l'enjeu. Je reviens juste sur ce que vous avez dit tout à l'heure, monsieur le président. Dire la peine, lorsque le président dit la peine. J'étais intéressée par votre article. Dire et expliquer. Combien de présidents balancent une peine dans les yeux ou pas, mais balance une peine en disant « votre avocat vous expliquera ». Et je crois que ça n'est pas bien. Ça n'est pas bien parce que c'est pas nous qui avons pris cette décision, et parce que c'est à nous, effectivement, d'en expliquer les enjeux juridiques. Vous pouvez interjeter appel dans 10 jours, et un aménagement de peine est possible à partir de telle date, mais le sens de cette décision, il est rendu par une juridiction, et il faut que le prévenu puisse entendre pourquoi il a été condamné. Je rappelle que les avocats, nous avons la copie des jugements des mois plus tard.
Trop longtemps,
voilà,
après,
donc,
bien sûr.
Donc il faut expliquer au prévenu non seulement le sens de la peine, mais le pourquoi de la peine.
Alors Guillaume Daïef, vous êtes interpellé directement. décider d'une peine, expliquer une peine. Expliquer une peine, dire sur quoi vous vous êtes basé pour retenir une culpabilité ou pour relaxer.
Oui. Il y a deux moments où on peut le faire. Il y a l'audience, quand on rend la décision. Et puis ensuite, il y a dans le jugement, quand on rédige le jugement et on motive. Et le jugement, c'est l'explication. Enfin, d'abord, c'est la démonstration d'une culpabilité ou d'une relaxe. Mmh. Parce que parfois, on relaxe quand même. Et dans ce cas-là, on essaie d'expliquer au procureur pourquoi on ne l'a pas suivi. Et puis, d'autre part, c'est une sorte d'explication de la peine. C'est pas une démonstration, la peine. Hein. C'est, oui. On essaie d'expliquer. Alors, par exemple, là.
Mais alors, à l'audience, premier cas de figure, à l'audience, quand vous prononcez une peine, est-ce que vous faites un calcul, vous expliquez sur quelle base vous avez décidé du nombre de mois, j'ose pas dire d'années?
Eh ben j'essaie, c'est pas facile. Et d'ailleurs, parfois, je prends 2-3 minutes avant de revenir à l'audience, alors que tout est réglé, le greffier est prêt, tout le monde est là. Je prends, disons, 2 minutes pour noter quelque chose sur ma feuille, pour expliquer les raisons pour lesquelles, par exemple, on a déclaré coupable alors que le prévenu contestait, et les raisons pour lesquelles on a prononcé telle ou telle peine. Ce que j'essaie de faire aussi, c'est de dire, d'expliquer qu'on a pris en compte certains éléments qui fait qu'on a pris à la baisse. Non, par exemple, vous avez reconnu les faits dès le deuxième jour de la garde à vue. Vous avez plutôt coopéré. Donc ça, on le prend en compte. Je dis qu'on le prend en compte à la baisse. Voilà. Mais par exemple, il y a quelques jours, un prévenu avait reconnu les faits dès le deuxième jour de garde à vue devant le juge d'instruction et encore à l'audience. Mais à son casier, donc ça, je lui ai dit, ben voilà, normalement, ça, on aurait dû vous prononcer une peine, pas vous laisser en prison parce qu'il était détenu à ce moment-là. Mais le fait est que c'est, je reviens, j'ai peut-être cité l'exemple tout à l'heure, c'est la 20e fois que, et que, en plus, vous avez produit à l'audience des documents qui étaient censés montrer que vous aviez retrouvé un travail et des ressources de nature à indemniser vos victimes. Vous avez dit, non, ça y est, cette fois, c'est bon, c'est terminé. Et ces documents étaient presque sans doute des faux. Oui. Donc là, ça, je lui ai dit, voilà, vous ne pouvez pas... Donc, pour nous, le seul moyen... d'éviter que ça recommence, c'est de vous laisser en prison. Et c'est comme ça que j'ai justifié une peine qui était particulièrement élevée.
Alors, Marie Dosé, ce que vient nous dire Guillaume Daïef, c'est que le président retient certains faits. C'est-à-dire que sur ce fait-là, ok, on est d'accord. C'est important pour le prévenu de savoir qu'il n'est pas rejeté en bloc.
Oui, alors, c'est important pour le prévenu de sentir que cette peine, elle lui appartient, quelque part. Malgré tout, qu'il existe dans ce qui a été décidé. Même si c'est parfois, en tout cas pour lui, disproportionné. Oui. Mais il faut qu'il comprenne pourquoi cette peine a été décidée. Et il faut qu'à l'intérieur d'une peine, quelque chose de lui, de sa défense, de son parcours, de sa vie... existe. C'est ça qui est important. On peut tout à fait dire à quelqu'un, écoutez, on vous en est à votre 20e condamnation, moi je pense très sincèrement que les documents que vous m'avez donnés sont des faux. Maintenant, il y a une chose que je retiens aussi, c'est que, sur ce point-là, vous avez été honnête, et le dossier l'a prouvé. Rien que ça, ça prouve qu'on ne rejette pas tout en bloc. Et c'est essentiel. Parce que, de toute façon, dans un dossier, il y a toujours quelque chose à sauver. Voilà. Et quelque chose à entendre de celui qu'on juge. Si on ne le met pas en lumière au moment du délibéré, eh bien, il va y avoir une forme de victimisation du prévenu, une forme de rejet qui va être contre-productive.
Voilà. Guillaume Daïef.
Oui, oui. Et alors parfois à l'inverse, c'est plutôt au procureur que j'explique la raison pour laquelle on a mis beaucoup moins que ce qu'il demandait. Par exemple, j'ai en tête le cas d'un dossier vraiment lambda où était poursuivi un monsieur parce qu'il avait détruit la télé de sa compagne et il avait un peu tout cassé dans l'appartement de sa compagne. Bon. Voilà, c'était assez désagréable, effectivement. Mais alors, à son casier, on voyait qu'il avait déjà été condamné pour des violences sur sa compagne. Et là, ce que j'ai expliqué au procureur, c'est que finalement, bon, on l'a quand même déclaré coupable et condamné à une peine qui ne devait pas être très, très... Mais on a dit, il y a une sorte de progrès, parce que avant...
Il frappait la compagne le corps.
Voilà, et maintenant, il détruit la télé. Bon, c'est un peu mieux, finalement. Voilà.
Et alors, la question de la présence du prévenu pendant l'audience, on ne lui parle pas qu'au moment où on le condamne ou on le relaxe. Il faut aussi qu'il soit partie prenante à son procès, qu'il puisse s'exprimer. Et dès le début, Guillaume Daïef, c'est pas évident, ça, non ?
Ah, tout à fait. Alors, exactement. Alors, ça c'est un sujet intéressant. C'est à partir de quand on donne la parole au prévenu. Voilà. Alors, moi, ma pratique, c'est de la lui donner le plus tôt possible. Et c'est vrai que dans les pratiques que je constate, il y a la pratique qu'on appelle du rapport. Rapport,
alors, c'est-à-dire... Pour nos auditeurs, ouais, un rapport, c'est...
Ben, c'est en fait un monologue du juge qui a regardé...
Qui résume le dossier.
Qui résume le dossier et qui résume le dossier. Alors, sauf que parfois, les résumés durent très très longtemps. Et puis...
Et qu'à la fin, tout est dit.
Ouais, tout est dit. Et puis, surtout, est prévenu à bout pendant ce rapport, parce qu'il voudrait intervenir. On lui dit non, plus tard, vous interviendrez plus tard. Et puis, à la fin du rapport, voilà, ça a duré 20 minutes. Alors là, je parle du correctionnel, mais Maître Dauzé va sûrement parler des assises. Là, c'est... Bon, alors, qu'est-ce que vous dites? Mais là, il dit
pas rien. Il peut rien dire, bien sûr. Marie Dauzé.
Vous aurez la parole. Aurez la parole. Ne vous énervez pas, vous allez avoir la parole. Non, le pire, c'est devant les cours d'assises. Et j'ai des discussions assez houleuses avec les présidents. L'accusé devient spectateur de son propre procès. C'est-à-dire c'est terrible. Il ne s'exprime pas pendant 2 jours, 3 jours. C'est-à-dire que les témoins viennent défiler, les témoins...
On ne parle que de lui.
Et dans mon calendrier, écoutez, maître, dans mon calendrier, je lui donne la parole à partir de jeudi. Et évidemment que le jeudi, lorsque l'accusé se lève, mais il ne peut pas rattraper tout ce temps. Alors, je comprends que l'accusé ne peut pas se lever toutes les 2 minutes pour réagir à ce qui est dit, mais il doit pouvoir être entendu régulièrement sur des points cruciaux qui, évidemment... Et lorsqu'ils sont passés définitivement et sur lesquels il pourra plus réagir. Donc moi, c'est vrai que c'est une vraie bataille à l'audience.
Est-ce qu'on ne devrait pas imaginer, Marie Dauzé, comme ça se fait d'ailleurs dans des audiences, notamment au Canada et aux États-Unis d'ailleurs, une sorte d'organisation des débats avec les parties, de manière contradictoire? Comment on va s'y prendre? Qu'est-ce que vous donnez comme temps de parole pour votre client, etc.?
Oui, alors il y a, non pas des audiences préparatoires, mais il y a des réunions préparatoires, oui, avec les présidents de cour d'assises, les parties, on essaie de savoir combien de témoins vont être cités, mais ça ne va pas beaucoup plus loin. C'est vrai que je pense, encore une fois, il faudrait qu'on se parle plus. Et puis surtout, il faudrait vraiment... que les présidents acceptent de faire exister les prévenus et les accusés bien plus que ce qu'ils ont l'habitude d'accepter, parce que c'est leur procès, parce qu'ils sont la figure du procès.
France Culture, Esprit de Justice, Antoine Garapon.
Esprit de Justice qui continue de réfléchir sur les qualités d'un bon président d'assises en compagnie d'un président de correctionnel, en compagnie d'un président de correctionnel, Guillaume Daïef, et de Marie Dauzé, avocate. Marie Dauzé qui a choisi de nous faire entendre cet extrait du Quatuor pour piano en numéro 1 en sol mineur opus 25 de Brahms, qui était en l'occurrence joué par le Forêt Quartet. Marie Dauzé, un mot de commentaire sur ce...
Oui, parce que Brahms est un de mes compositeurs préférés, et puis parce que je crois que j'ai 13 ou 14 ans lorsque je rentre dans une salle de cinéma, que se joue Monsieur Hir, et que Monsieur Hir, tout au long de ce film, écoute ce disque, et particulièrement ce passage du Quatuor. Donc voilà, c'est un petit hommage à Michel Blanc.
Un hommage à Brahms, un hommage à l'écoute aussi, Guillaume Daïef, un hommage à l'écoute. Et on parlait du président qui pose des questions, qui n'écoute pas la réponse. Ça veut dire qu'il y a dans l'audience, et Robert Badinter disait, l'audience c'est comme la mer. Ça commence, ça peut être calme, et puis tout d'un coup, c'est le gros temps. C'est le gros temps, et la qualité de l'avocat, c'est celui qui va tenir la barre. On a entendu souvent utiliser cette image de Marie Dosé. Ça veut dire que le rôle de l'avocat, c'est de s'adapter. S'adapter à chaque président.
Oui, à chaque président et à chaque instant d'audience. Moi, je fais beaucoup d'erreurs quand j'étais jeune. Je pensais que tout allait se jouer à la plaidoirie. C'est-à-dire que j'intervenais très peu à l'audience. Je laissais le président faire. Je comptais les points et je me disais, mon Dieu, quelle injustice. Il a mal instruit là, c'est pas vrai. Et puis, je réservais tout pour la plaidoirie. Et je me trompais, évidemment. C'est-à-dire qu'il faut que l'avocat ait le courage à chaque fois de se lever. Alors, c'est compliqué parce que, maître, vous n'avez pas la parole. Maître, laissez-moi faire mon rapport, etc. Mais c'est vraiment une erreur de jeunesse que je regrette fortement dans beaucoup, beaucoup de mes dossiers. Il faut que l'avocat participe à l'instruction, à l'audience, et qu'il n'attende pas de la plaidoirie pour revenir sur ce qui ne va pas.
C'est ça. Et donc, une véritable stratégie de défense dès le départ. Là aussi.
Dès le départ. Dès le départ, et il faut savoir, il faut en fait, par notre présence, dire au président, nous serons là, mais dès le début. On ne va pas se contenter de plaider. On veut faire exister la défense à l'instruction, à l'audience, pas à la fin.
Alors, Guillaume Daïef, il y a des fois, on a des surprises à l'audience. Il y a des coups de théâtre, il y a des rebondissements. Il y a, par exemple, des gens qui reconnaissent ce qu'ils ont contesté pendant toute la procédure de police et parfois même l'instruction. Et si l'ambiance est bonne, j'allais dire, si l'ambiance est bonne, vous avez vécu ça, Marie Dosé ?
Nous, on a vécu une audience bouleversante il y a peu de temps. Et c'est la justice des mineurs, hein. Donc avec un président qui m'a très clairement dit après qu'il n'avait jamais vécu ça en 10 ans, et qui d'ailleurs, je crois, a versé une larme. Nous étions tous en larmes, un dossier très très violent, et c'est ce président, mais cet avocat général aussi, ce jeune garçon a réussi à avouer les faits. En réalité, personne ne savait qui avait donné le coup de couteau mortel. C'était une histoire de bande, soyons clairs. Et cette instruction a duré 5 ans, 6 ans, et tout se tenait. Et puis, il a rencontré la confiance. Il s'est dit, c'est maintenant ou jamais, et je sens que je peux le dire, je sens que je vais être accueilli. Alors, il l'a dit avec toute la peur qu'il avait en lui. Ça a duré, il est resté une heure à la barre. Nous étions tous bouleversés, mais enfin, une mère est partie avec la vérité. Et très franchement, ça a été une œuvre collective d'un président, d'un avocat général et de tous les avocats qui étaient là. Ça a été bouleversant, ça nous a tous bouleversés. Et ça, c'est un instant magique. Il y a vraiment des instants de grâce dans une audience. C'était un instant de grâce.
Ce que je retiens, ce que vous dites, ce terme est très important. Il avait senti qu'on allait accueillir sa parole.
Mais bien sûr, jusqu'au bout, vous savez, c'était moi son avocat. Je ne savais pas ce qu'il allait faire. Et je peux le dire parce que je l'ai plaidé. Bien sûr que j'ai essayé de le persuader, mais c'est une lourde responsabilité. Ça n'est pas ma vie ensuite. Donc, moi, j'étais arrivée au bout. C'était au magistrat de prendre le relais. C'était au magistrat de lui construire cette sphère où il pouvait se dire je peux y aller. Je peux y aller. Et il y est allé, mais jusqu'à ce qu'il s'avance à la barre, il n'avait pas encore pris sa décision. Et c'est le président qui l'a accueilli.
Guillaume Daïef, président qui l'a accueilli.
Ça, c'est sûr que si le président ne regarde pas le prévenu à aucun moment, ou l'accusé, et s'il ne lui adresse pas, s'il ne sent pas la moindre bienveillance, je pense que ça
risque pas de se produire.
Ne se serait jamais passé.
Alors comment on réagit, parce que ça on l'a tous vécu dans les audiences, et pas avec ce degré d'intensité, mais comment le président d'audience qui a préparé son dossier, qui a posé toutes les questions, tout d'un coup le prévenu reconnaît les faits dans un moment de vérité. Comment il se comporte, le président?
Et ben alors, il y a un premier type de comportement qui consiste à dire quoi, vous avez fait ça, mais c'est hyper mal, quoi. Voilà.
Mais ça c'est quand même extrêmement maladroit de la part du président.
C'est horrible. C'est horrible parce que ça consiste à... Enfin, ça... Et puis surtout, ça met en difficulté peut-être l'avocat qui a peut-être essayé de convaincre son client de reconnaître les faits. Et alors là, il se prend un sermon.
C'est pas le rôle du juge de faire des sermons.
Non, évidemment. c'est pas le rôle du juge, surtout si le prévenu conteste les faits. Alors, c'est encore moins le rôle du juge. Alors, s'il reconnaît les faits, il y a un moment où, puisqu'on va parler sanctions, peines, etc., il y a un moment où on va essayer de comprendre les motivations, les motifs, les raisons, hein, on va pouvoir parler de ça. Et évidemment, peut-être qu'il y a un moment où on va pouvoir quand même se faire une opinion si cet individu est vraiment un salaud ou si c'est tout le monde à sa place aurait fait la même chose. Si vous voulez, hein. Bon, donc là, il va peut-être y
toujours
avoir...
l'identification.
Il va peut-être y avoir quelques petites. Mais vous parliez du langage tout à l'heure.
Oui.
On peut.
Tout à fait.
Alors le langage, c'est super important, justement pour établir le contact et lancer ce pont dont parlait Maître Dauzé avec le prévenu. Pas seulement le regard ou les mimiques faciales. Par exemple, moi, j'essaie d'avoir le visage plutôt mobile, mais je crois que vous...
Oui, vous participez pas. Je pense au spectacle de Lorraine de Sagazan sur Léviathan qui porte sur les comparutions immédiates, et elle a eu l'idée de mettre un masque de cire sur le visage des juges, et finalement...
Bon, alors moi, c'est ce que j'avais en début de carrière, et maintenant, j'ai déposé mon masque de cire, et maintenant, j'ai un visage plus mobile.
Voilà. Et vous autorisez à exprimer
je hausse
des sentiments.
Sourcils, je souris, je monte de l'étonnement, je monte de la peine, j'essaie de voilà. Et mais évidemment en lien avec ce que me dit le prévenu. Donc ça c'est sur la mimique,
l'expression faciale.
Et sur le langage, je pense qu'il est très important qu'on parle que nous les présidents là, on parle un langage qui soit compris par les prévenus. Alors pour ça, par exemple, il y a en début d'audience, quand on accueille la personne, on lui rappelle les faits qui lui sont reprochés. Voilà. Et donc, il y a la lecture de ce qu'on appelle la prévention. Ou qualification développée. Et qualification développée, c'est un petit concentré de langage juridique.
Oui, hein, voilà. Extrêmement hermétique, depuis temps, portant pas la prescription, voilà. Etc.
Donc, moi déjà, je laisse tomber les formules rituelles qui ne servent à rien, qui encombrent, etc., et qui prennent du temps, tout ça. Et puis, d'abord, je dis, avant de dire la qualification développée, je dis ce qu'il lui reprochait en vrai, c'est-à-dire escroquerie, abus de confiance, etc., pour qu'il comprenne de quoi il s'agit. Et puis, j'essaie d'enlever tous les mots qui sont incompréhensibles. Donc ça, c'est pendant la
prévention.
La prévention. Et puis ensuite, pendant l'audience, je pense qu'il faut le faire, essayer d'écouter bien ce qu'il dit, et puis de retenir des mots, parfois je note un mot, etc., et puis hop, je rebondis ensuite sur le mot qui a été utilisé. Et ça, c'est vachement...
Qu'est son propre mot,
et c'est super important, parce que ça montre, enfin, le prévenu, ou l'avocat, parfois je rebondis sur un mot utilisé par l'avocat, ça montre qu'ils ont été entendus. Voilà. Alors ensuite, on rebondit, et puis ça peut conduire à d'autres choses, hein, mais voilà.
Non mais, de surcroît, je pense qu'on n'imagine pas le nombre de fois où le prévenu ne comprend pas ce qui lui est dit, mais s'applique à répondre.
Quand même.
Mais oui, mais parce qu'il veut donner une bonne impression. Il n'ose pas dire au président, je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce que vous me dites, en fait. Et donc, il veut, on lui pose une question, il veut répondre. Et combien de fois je dis au président, écoutez, madame la présidente, monsieur le président, je suis sûre qu'il n'a pas compris. Mais si, il m'a répondu. Mais je sais qu'il répond à côté parce qu'il y a un gouffre entre son vocabulaire et celui du président et du magistrat. Et ça, vraiment, il faut faire très attention.
Mais est-ce que ça veut dire que, Guillaume Daïef, vous allez jusqu'à employer des mots courants? Je pense, par exemple, l'escroquerie, c'est pas comme ça qu'on dit dans les banlieues.
Oui, effectivement. Alors, on pourrait me reprocher d'être un peu manipulateur, mais... Maître Dauzé, vous me direz ce que vous en pensez. Par exemple, si vous demandez à quelqu'un, reconnaissez-vous avoir commis des violences volontaires sur la personne de madame Machin? Bon, je vais dire, non, jamais. Violences volontaires, qu'est-ce que c'est que ce langage? Bon. Alors, en revanche, si vous les dites, bon, est-ce que vous ne l'avez pas un peu chiffonné? Chiffonné. Ouais. Ou bousculé. Ouais. Bousculé, chiffonné. Voilà. Et alors là...
Chiffonné, ça veut dire...
Ça veut dire, en fait, se donner un coup de poing, quoi. Oui. Enfin, dans des milieux où la violence physique est assez courante, bon, c'est donner un coup de poing pas très appuyé, vous voulez, voilà. Ou, par exemple, pour l'escroquerie, vous allez dire, reconnaissez-vous l'escroquerie? Bon, j'ai jamais escroqué personne, mais... Bon, vous connaissez pas d'avoir un peu entourloupé?
Embrouillé.
Ou embrouillé. Et là, Oui, un peu, voilà.
Mmh. Et dans le sens inverse, je me souviens en comparution médiate, je ne sais plus très bien quand, mais de la présidente qui, une bouteille de champagne livrée, et la personne était passée, avait évidemment volé les bouteilles de champagne, et donc la personne dans le box reconnaissait, et la présidente lui dit, mais vous appelez ça comment, monsieur? Parce qu'elle attendait le mot vol. Et lui, voulant lui faire plaisir, s'est concentré pour chercher un mot, un beau mot, et lui a dit, une autorpunité. Et la présidente, non, monsieur, ça s'appelle du vol. Mais voilà, le langage, c'est vraiment quelque chose d'assez extraordinaire hein, dans une audience. Et il faut y prêter attention. Là, je sors de cour d'assises, mon client a été formidable. On lui a dit, mais enfin, vous vivez finalement tout près de ce quartier où vous avez grandi. Vous aviez pourtant dit que vous ne vouliez pas que votre fille grandisse dans le même quartier. Non, je vis pas dans le même quartier. C'est pas les mêmes écoles. Les mères n'ont pas les mêmes dos. Et là, il faut écouter. Les mères d'élèves n'ont pas les mêmes dos. Elles sont plus droites. Sa mère fait des ménages. Et voilà. Oui. Tout ça, c'est ça. Il ne faut pas le perdre parce que on ne sait pas ce qu'ils vivent. On ne sait pas ce qu'un prévenu a vécu. Et il faut faire très attention à la façon dont il l'exprime.
Alors, ça arrive que, trop souvent, malheureusement, que la justice ait à juger des étrangers. Et les étrangers, ils ont des codes culturels que le président ne connaît pas nécessairement, Guillaume Daïef.
Oui, effectivement, j'ai un exemple là-dessus et ça montre vraiment l'importance que les juges connaissent un peu les gens qu'ils jugent. C'était un Guinéen à qui le procureur reprochait d'avoir monté une agence de change entre la France et la Guinée. Et puis, et donc il le poursuivait à la fois pour exercice illégal de la profession de banquier, et ça c'était à peu près caractérisé, et puis aussi il le poursuivait pour blanchiment, voilà, en lui disant tous les fonds que tu as récoltés à Paris par des opérations de compensation, faire l'opération équivalente en Guinée, tous ces fonds-là sont le produit d'infractions. Comment vous assurez que c'est pas le produit d'infraction? Et là il répond, mais moi, l'argent qu'on m'apporte, c'est que des papas qui me les apportent. Alors, moi je connais un peu l'Afrique, parce que mon épouse est d'origine sénégalaise. Et donc, des papas, je sais ce que c'est. Ce sont des gens respectables, voilà, des pères de famille honorables. Voilà. Et donc, en répondant à ça, il a fait comprendre qu'au fond, il faisait attention, en réalité, à ne pas blanchir de l'argent. Mais si vous ne connaissez pas ce que c'est que papa, et que vous entendez ça, vous dites, mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Voilà. Et vous ne le croyez pas.
Et donc, l'élément intentionnel de l'infraction n'a pas été caractérisé?
Alors, je ne vous dirai pas ce qui est
Mais alors, Marie Dosé, qu'est-ce qu'il faudrait, démarche d'amélioration, pour perfectionner l'audience? Alors, on a déjà parlé de la communication entre les avocats et les magistrats, l'exercice auquel nous sommes livrés ce soir devrait peut-être le faire plus souvent.
Non, mais moi, je pense que la justice souffre énormément de cela. Et je vais terminer par ça, parce que je trouve ça très bien d'avoir commencé et de terminer par cela. D'abord, il faut rétablir la confiance entre les magistrats et les avocats. Il faut qu'on cesse parfois, parce qu'on en vient là, hein, de se considérer comme des ennemis. Moi, je ressens des tensions dans les audiences correctionnelles et criminelles de plus en plus prégnante, pour de mauvaises raisons d'ailleurs. Et j'ai le sentiment malheureusement que trop de magistrats nous considèrent comme les complices de nos clients, alors qu'on a tant à leur apporter. Et je disais à mes collaboratrices il y a quelque temps, mais je crois qu'aucun magistrat instructeur, ces 10 dernières années, n'a pris son téléphone pour me dire « Maître Dosé, vous qui connaissez cette personne, que j'arrive pas à comprendre, qu'allez le voir 3-4 fois par mois en détention, il y a quelque chose, j'aimerais en discuter avec vous. » Non. C'est quand même dommage. Non, mais c'est vrai, c'est quand même dommage. Et ça va au-delà du secret professionnel. Il y a quelque chose de beau dans la foi du palais.
Oui, alors la foi du palais, pour nos auditeurs, la foi du palais.
La foi du palais, c'est une sphère entre les avocats, les magistrats, les gens de justice, où on se parle dans le secret pour se dire des choses intelligentes et faire avancer, pas seulement la manifestation de la vérité, mais la compréhension de ce qui est entre nos mains. Voilà, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage.
Guillaume Daïef, vous regrettez aussi cette absence de communication avec les avocats?
Oui. C'est un problème congénital parce que, en France, la carrière des magistrats et des avocats sont séparées. Donc, il faut y travailler tous les jours à resserrer nos liens, mais sans être dans la collusion de gens de robe aussi.
Bien sûr.
Eh bien, on terminera sur ce vœu, en espérant qu'il ne sera pas pieux. Esprit de justice est terminé ce soir. À la technique, il y avait Grégory Wallon, à la réalisation Camille Mathy, à la préparation Laurence Genepin. Une émission d'Antoine Garapon.